Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une. Son surnom ? Le chat. Sa vraie identité, Félix Bingui. L'homme de 33 ans est soupçonné d'avoir dirigé l'un des principaux groupes de narcotrafiquants de Marseille. Il a été arrêté le 8 mars au Maroc et fait désormais l'objet d'une procédure d'extradition vers la France.
Qui va faire beaucoup parler. Un baron du narcotrafic vient d'être arrêté. Il s'agit de Félix Bingui, le patron présumé du clan marseillais, les Yoda. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui vient de confirmer.
Nous sommes le samedi 9 mars 2024. Le chef du gang marseillais Yoda, Félix Bingui, a été interpellé la veille au Maroc, à Casablanca, par la police du pays. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, le confirme dans un message posté sur le réseau social X.
Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue. Un grand coup est porté aujourd'hui au narco-banditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines que je remercie.
Félix Bingui était en fuite depuis juillet 2023 et sous notice rouge d'Interpol. Il avait trouvé refuge au Maroc depuis plusieurs mois, selon les informations de BFM TV, auprès d'une source policière. Félix Bingui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction marseillais. Et voici ce qu'on lui reproche. Importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou encore blanchiment d'argent. Le chat a donc été placé en garde à vue avant d'être présenté devant le parquet compétent à Casablanca dans le cadre de la procédure d'extradition. Impossible à l'heure où j'enregistre ce podcast de savoir combien de temps peut durer cette procédure. Ce qui est certain, comme l'écrit le journal Le Monde, c'est que l'arrestation du chat signe symboliquement l'épilogue d'une guerre meurtrière entre deux clans criminels marseillais. J'y reviendrai un peu plus tard. Sur BFM TV, le maire de Marseille, Benoît Payan, salue en tout cas un coup majeur porté au narcotrafic international.
On a aujourd'hui les chefs du narcotrafic qui ne sont pas à Marseille, qui se trouvent dans des pays étrangers, dans des pays du Golfe, qui se trouvent dans des pays du Maghreb. Et bien évidemment, la coopération internationale a été déterminante. Mais je veux encore une fois saluer le travail évidemment des policiers de la PJ, des magistrats qui ont tout fait pour qu'on puisse l'arrêter. C'est un vrai coup, c'est un coup très fort qui est porté au narcotrafic international.
Car pour Benoît Payan, il ne suffit pas de procéder à des arrestations en France. Il faut aller bien au-delà.
J'ai toujours dit d'ailleurs qu'il ne suffisait pas de couper les tentacules de la pieuvre, mais qu'il fallait lui couper la tête. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un énorme succès, c'est un des plus gros succès pour la police et pour la lutte contre le trafic international.
Félix Bingui est né à Alès, dans le Gard. Il passe une partie de son enfance à Nîmes. Et c'est à 12 ans qu'il arrive à Marseille, au Chartreux. Le garçon tombe très vite dans la délinquance. Il est arrêté notamment pour des cambriolages et, selon la Provence, incarcéré pour vol avec violence avant même sa majorité. Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police FO.
Il a commencé par des cambriolages. Il a été déjà interpellé, arrêté en 2008-2009 de mémoire. Il avait cambriolé dans un château avec des tableaux à la clé. C'était du côté de Montpellier. Puis après, il a glissé dans les stupes. On connaît son parcours, notamment à la paternelle à Marseille. Et puis il a les mains sales, hein, comme on le sait. Il y a des règlements de compte. Il y a ce trafic de stupéfiants. Donc au départ, c'était un petit voyou, mais il a évolué. J'allais dire progressé.
En 2017, le chat est condamné à 3 ans de prison. Mais cela ne l'empêche pas, à sa sortie, de reprendre ses activités. Bien au contraire, il fait même décoller son business dans la cité de la Paternelle, dans le 14e arrondissement de Marseille. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale.
Ils avaient deux points de vente dans la cité, la Paternelle. Et puis, vous savez, quand vous commencez à devenir fort, ben, vous essayez de récupérer d'autres points de vente, comme certains ont essayé de récupérer les leurs. Et il faut dire les choses, Félix Bengui a toujours réussi à maintenir ses points et même à développer ses points dans d'autres endroits de Marseille et même dans d'autres endroits du sud de la France.
On peut lire dans le journal La Provence que la cité La Paternelle est particulièrement stratégique. Située à quelques centaines de mètres des sorties d'autoroute, des clients de toute la région viennent s'approvisionner en cannabis et cocaïne, servis directement en voiture. La demande est si importante que certains jours, le chiffre d'affaires de ce seul point de vente peut atteindre 100 000 euros en 24 heures. La Paternelle, un point essentiel du trafic, logiquement lorgné par plusieurs clans, dont celui de Félix Bengui. Ces hommes livrent une guerre sans merci à ceux d'un clan rival, la DZ Mafia. Bruno Bartocchetti.
Et on est dans la guerre des gangs, dans la guerre des réseaux, et c'est vrai que le clan Yoda rapportait beaucoup d'argent. Alors après, il y a eu une guerre des gangs, mais pas seulement sous fond de trafic de stupéfiants, hein. Il y a eu des gros différends entre, on va dire, parrains de la drogue, donc dans les règlements de compte, il y a les règlements de compte par rapport au territoire, mais aussi par rapport aux personnalités des uns et des autres, et c'est pour cette raison aussi qu'on a eu beaucoup de règlements de compte.
Le clan Yoda est baptisé ainsi en raison de peintures sur les murs de la cité, représentant le personnage de la série Star Wars. Des peintures retrouvées sur certains points de deal, dans des cités de Marseille. Le clan DZ Mafia renvoie quant à lui au domaine national pour l'Algérie, dans les adresses internet. Jusqu'à il y a peu, Félix Bengui, alias Le Chat, voyageait beaucoup. Marseille, Malaga en Espagne, la Thaïlande ou encore Dubaï. Le jeune homme dépense sans compter, écrit La Provence. Mais il évite soigneusement de fréquenter le quartier de la Paternelle. Félix, il peut claquer 30 000 euros dans la soirée, raconte en 2022 un jeune dealer. Au fil des années donc, des inimitiés se forment entre les barons de la drogue de Marseille. Et 2023 est une année terrible. 49 personnes sont tuées, dont 4 victimes collatérales. 123 blessés dans ces violences liées au trafic de drogue. Sur BFM Marseille, en décembre dernier, le procureur de la République de la ville, Nicolas Besson, revenait sur le coup de filet mené à l'encontre des trafiquants.
Les phases d'interpellation récentes se sont attachées également à ne pas se limiter aux exécutants du trafic de stupéfiants ou des assassinats et de remonter. Après, ceux qui sont qualifiés de têtes de réseau, dont je ne citerai pas les noms aujourd'hui, mais que tout le monde connaît, hein, certains d'entre eux sont effectivement réfugiés à l'étranger. Nous travaillons dans le cadre de la coopération internationale et ma volonté, naturellement, est d'aller les chercher où ils se trouvent.
Félix Bengui a donc été arrêté ce 8 mars 2024 au Maroc. La France attend désormais son extradition pour le juger. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a par ailleurs fait savoir que 19 individus très recherchés pour leur rôle dans le trafic de drogue à Marseille avaient également été arrêtés, dont certains à l'étranger. Bonjour Jean-Michel Verne.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des affaires criminelles, auteur de plusieurs ouvrages, dont Les Nouveaux Mystères de Marseille ou plus récemment Procureur en France aux éditions Robert Laffont. Ce vendredi 8 mars, Félix Bengui, 33 ans, est donc interpellé par les autorités marocaines à Casablanca. Il est soupçonné d'avoir dirigé l'un des plus gros clans de la mafia marseillaise avec le groupe Yoda. D'abord, que sait-on de son enfance, Jean-Michel Verne ?
On sait que c'est un garçon de mémoire qui est originaire du Gard, qui a le parcours traditionnel d'un trafiquant de drogue des quartiers nord, hein. C'est-à-dire il a commencé par faire des petits vols, ensuite il s'est fait donc des cambriolages, puis il a commencé à se connecter à la vente de shit, un petit dealer, petite pièce du puzzle, puis petit à petit il a monté, il a gravi des échelons, au point de devenir aujourd'hui, enfin d'après ce que disent les services du ministère de l'Intérieur, l'un des principaux trafiquants de drogue français, en gros. Aujourd'hui, tout est possible en matière de drogue. On peut, du jour au lendemain, changer de statut très rapidement, vu la quantité du trafic et les sommes qui sont récoltées dans ce trafic, qui place évidemment les trafiquants en première ligne, je dirais dans la hiérarchie, le Wozu du grand banditisme.
Alors pourquoi cette arrestation est importante? Est-ce que concrètement ça va changer quelque chose au trafic qui se déroule notamment à Marseille?
Elle est importante au niveau symbolique. Elle intervient au lendemain de la visite de la commission sénatoriale du Sénat consacrée au narco-banditisme à Marseille. En quelque sorte, débarque en disant bon, on vient au secours de la ville pourrie, quoi. Et donc, cette arrestation met du baume au cœur, permet en matière de communication, en tout cas, de dire voilà, certes, les narcotrafiquants sont dans une phase ascendante, on a 49 règlements de compte, mais nous, on est là. On est là, on a renforcé les effectifs, les magistrats sont mobilisés. Et on va faire quelque chose, et voyez, on arrête Bingui. Comme on a arrêté Berébou, Hakim Berébou, il y a quelques mois. Comme on a arrêté Karim Arat, comme on a arrêté Mimo, le patron de la Castellane. Voilà, ce sont des moments symboliques et forts. Ceci dit, la nature horreur du vide, un caïd est remplacé par un autre.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'on coupe une tête, il y en a une autre qui repousse. Comment est-ce que finalement on peut faire pour stopper ces règlements de compte? Parce que notamment à Marseille en 2023, ça a été très sanglant.
Vous savez, l'image de la mafia, c'est la pieuvre. La pieuvre, vous lui coupez un tentacule, elle repousse. Et c'est vrai que cette image-là, elle nous colle à la peau, comme elle colle à la peau du territoire italien. On voit que malgré les opérations opérées contre la mafia, contre Cosa Nostra, certes, ça affaiblit. Par exemple, la mafia sicilienne, ça peut l'affaiblir. Mais en même temps, elle reste la mafia, elle reste sur le territoire. Elle est puissante, comme elle est puissante en Calabre, comme elle est puissante à Naples. Et comme elle est puissante aujourd'hui à Marseille, c'est ça le problème. C'est qu'on commence à avoir une correspondance extrêmement forte entre ce qui se passe à Naples, ce qui se passe à Marseille. Aujourd'hui, c'est Gomorra à Marseille. C'est ça le problème.
Une narcoville, c'est l'adjectif qui a été utilisé par 4 magistrats marseillais auditionnés par la commission sénatoriale sur le narcotrafic pour décrire Marseille. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Alors, moi, si vous voulez, j'ai une analyse un peu historique. Vous avez des moments importants. Vous avez un premier moment important, c'est l'assassinat de Farid Berama. On le surnommait le rôtisseur. Berama, c'est quelqu'un du milieu traditionnel qui a compris ce qui allait se passer dans les quartiers nord. Il a anticipé, en fait, les choses. Il les a théorisées. Il a compris que ça allait être le point d'ancrage du trafic de drogue dans le sud de la France. C'était Marseille. Marseille avait une position stratégique. On assassine Berama. À partir de là, vous avez émergence de clans, de familles, comme les Tirs, les Redmania, les Berébou, qui vont prendre de l'importance et qui vont commencer à s'entretuer. Vous avez une période importante, c'est 2012-2015. C'est là où on s'aperçoit qu'il y a une montée du narco-banditisme. On met en place des méthodes d'enquête très précises, sauf qu'au niveau des moyens, des effectifs, ça n'a pas suivi. Là-dessus, la guerre entre les familles a abouti à la destruction des familles concernées. Hein. Par la suite, apparaissent de nouvelles équipes qui vont encore s'entretuer. Et aujourd'hui, on a 4 clans en fait à Marseille. On parle beaucoup de la DZ Mafia et de Yoda, mais vous avez l'équipe de Campagne Évêque et la Castellane, qui est toujours un point fort et indépendant, attention. Donc voilà, on s'aperçoit que ce mouvement perpétuel s'accélère, compte tenu aussi de l'augmentation exponentielle de la consommation de cocaïne en Europe et dans notre pays. Je reviens toujours sur ce chiffre. En 2 ans, entre 2020 et 2022, la consommation de cocaïne en Europe a augmenté de 30%.
Vous dites, tant qu'il y aura des consommateurs, finalement, il y aura du trafic, c'est ça que vous dites?
Oui, tout à fait. Les filières se multiplient, elles sont maintenant très efficaces, les ports sont de vrais passoires. Je pense en particulier aux ports d'Anvers, de Rotterdam et du Havre. Marseille, il suffit d'acheter des douaniers, d'acheter des dockers. Voilà, c'est le problème, c'est la force corruptive de ce milieu.
Mais parce qu'encore une fois, les trafiquants savent comment faire finalement pour faire passer leurs produits sans se faire prendre.
Ils savent, ils savent aussi se faire saisir une partie de leurs marchandises pour que l'autre passe. Ça, c'est une méthode très, très efficace. Hein. Donc, ils peuvent balancer un renseignement aux policiers pour qu'on saisisse une tonne et que de l'autre côté, on en passe 80.
Il y a tout un tas de plans qui sont mis en place depuis des décennies. Récemment, avec Gérald Darmanin, Marseille en grand, avec un volet sécurité qui renforce la présence des policiers. Mais on se rend compte que ça ne change rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête?
Alors, d'abord, mon point de vue, mais c'est mon point de vue, hein. Je pense qu'il faut une législation beaucoup plus répressive. Je pense qu'il faut adopter en France, décider de se doter d'un outil juridique comparable à l'association de type mafia en Italie. C'est quoi l'association de type mafia? C'est quelque chose qui vous permet de neutraliser quelqu'un par le seul soupçon de son appartenance à une organisation mafieuse. À ce moment-là, vous pouvez le poursuivre, vous pouvez saisir ses biens, vous pouvez bloquer ses comptes, vous pouvez le frapper au portefeuille. Et ça, c'est un outil redoutable. Et aujourd'hui, en France, on est réticent à avoir ce type d'outil anti-mafia parce qu'on a une culture très droit de l'hommiste, très soucieux de préserver les libertés individuelles. Et c'est vrai que ça pose énormément de problèmes.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Michel Verne, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle le titre de votre dernière enquête, Procureur en France, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci.
Merci à vous.
Et merci à Eva Serraiol pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter et à vous abonner, bien sûr, au titre à la une. C'est tous les jours, du lundi au vendredi et tous les soirs à 19h30 sur BFM Radio.
Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse au projet de loi fin de vie, euthanasie ou suicide assisté. Eh bien, ni l'un ni l'autre, Emmanuel Macron préfère choisir l'aide à mourir. Un choix des mots issus d'une longue réflexion du président de la République pour un projet de loi fin de vie qui sera accompagné de conditions strictes. Mais en quoi consiste-t-il? J'ai posé la question à Alexis Cuvillier, journaliste politique à BFM TV. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.